J'aimerais qu'on aborde de façon légère toutes ces fois où on se sent comme un gros caca. Perso, des fois, j'ai juste envie de disparaître. Ne plus jamais avoir peur, avoir mal, douter. Ne plus jamais me sentir seule. Et c'est ok. Parce que grâce à ces moments, quand je kiffe la vie, je la kiffe vraiment.
Cher journal, j'ai fait semblant tout au long de la journée. J'ai dû dire « Tout va bien, merci beaucoup » au moins 37 fois, sans jamais penser ce que je disais. Ce dont personne ne s'est aperçu d'ailleurs. Quand les gens vous demandent « Comment ça va ?», ils ne sont pas une seconde intéressés par votre réponse.
Sur le 101.7 pour la nouvelle émission Inside Out. On en est au troisième rendez-vous en studio avec Lucie. Ça me fait plaisir de te revoir.
Oui, c'est trop chouette d'être ici.
Comment te sens-tu en ce moment, Lucie ?
Eh bien, aujourd'hui, je me sens plutôt bien, motivée pour ce super projet avec toi. Et en plus, il fait beau. Et quand il fait beau, ça aide à aller bien.
C'est vrai que le temps peut bien jouer sur notre morale. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu sur notre santé mentale. Au final, le temps, notre entourage, notamment les personnes aussi, il y a nous et il y a les autres. On avait envie de se pencher un petit peu sur ça aujourd'hui.
Ouais, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je pense qu'on pourrait même faire 10 émissions sur ce sujet.
On va faire une série spéciale santé mentale.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup à dire et puis au final, on est des êtres sociaux, donc forcément, ça joue tout le temps, en fait, la relation aux autres.
Le besoin des autres.
Le besoin des autres et le miroir qui sont... Qui peut être conscient ou inconscient. Et puis le fait qu'eux-mêmes, des fois, ne soient pas conscients de leur état, qu'ils ne prêtent pas attention à comment ils se sentent et du coup, qui parfois déchargent leurs émotions sur leur entourage sans le vouloir. Et puis les gens qui sont hypersensibles, qui éponge tout ça.
Ouais, généralement, nous on en fait partie et je pense que la plupart des personnes qui ont tendance des fois à se sentir mal, c'est aussi parce qu'elles ont peut-être ce côté empathique d'éponger et de ressentir ces énergies négatives qui font un petit peu rebond sur nous.
Ouais, je pense que c'est pour ça que avoir les outils et les clés pour arriver à faire la différence entre nos émotions et ce qui nous appartient pas. C'est hyper important et c'est pas hyper accessible dans le sens où si on va pas le chercher par nous-mêmes, on peut vite subir les conséquences de tout ça.
Subir et puis peut-être aussi être amené à ressentir des émotions qui nous appartiennent pas, comme des fois la colère. Les gens ils vont nous mettre en colère justement par rapport à leurs énergies qui nous ne ressemblent pas. Donc on a énormément d'émotions et de comportements liés en fait aux personnes qu'on fréquente. On parlait en off de l'émission aussi de certaines personnes qui peuvent être toxiques dans la vie de certaines quoi, et qui jouent forcément un rôle sur le bien-être d'autrui.
Ouais, pour citer une expérience perso, moi mon premier amour c'était typiquement ça, c'était une relation très toxique. Dans le sens où j'étais complètement sous son emprise et où... À chaque fois que je formulais une demande, un besoin, il me renvoyait constamment à moi en me disant que c'était moi qui faisais pas correctement les choses, que c'était moi qui avais un problème, que pour lui tout allait bien et que je faisais des histoires pour rien, des choses comme ça. Et moi, j'avais pas la force et l'estime et la confiance en moi pour mettre mes limites et du coup je me rabaissais, je me dénigrais, je me remettais sans cesse en question et les conversations qui partaient sur moi qui pouvais faire un reproche ou une demande, au final, c'est moi qui finissais en pleurs à m'excuser, à dire « Oui, désolée, t'as raison, je suis qu'une merde. » et je pense que...
Tout part de là, en fait, de la confiance et de l'estime qu'on s'apporte à soi-même.
Ouais, je pense que bah, c'est la force qui maintient notre personnalité, en fait, dans le sens où si... Peu importe en fait qui on a en face de nous et comment elle se sent, si nous-mêmes on n'est pas capable de s'aimer assez pour dire ok, j'entends, je compatis avec toi et ou pas d'ailleurs, mais mais en tout cas j'entends ce que tu dis, mais en tout cas moi ça m'appartient pas, ça m'atteint pas quoi, ce qui empêche pas ouais d'être empathique ou sensible ou de réconforter l'autre quand on l'estime nécessaire, mais en tout cas si on n'a pas cette bulle de protection en fait de self-esteem, bah on peut vite se faire marcher dessus quoi.
Est-ce que tu dirais que tout part du fait de s'aimer soi-même pour se sentir bien?
Oui, je dirais clairement ça, et surtout dans les relations, parce que on peut pas attendre de l'autre qui nous rende heureux ou qui réponde à tous nos besoins ou quoi que ce soit, et c'est vraiment à nous de développer l'amour qu'on a pour nous et de faire au quotidien ce qui répond à nos besoins avant de chercher ça à l'extérieur en fait. Quand on est complètement dépendant de nos parents. Et du coup, on se construit avec leur exemple. Et en fonction de ce qu'ils nous transmettent, ça va déterminer aussi notre confiance en nous, notre personnalité. Et il n'y a qu'une fois qu'on arrive à se détacher de ça, au final, qu'on devient vraiment nous-mêmes, même s'il y aura toujours une partie de nous qui a été forgée grâce ou malgré... nos parents, c'est important, ouais, je pense, de vraiment se détacher de l'autre, peu importe la place qu'ils ont en fait dans nos vies, parce que voilà, on choisit pas ses parents dans ce cas-là, et ça peut justement découler en fait sur nos relations futures. Si par exemple tes parents sont instables ou manquent de confiance en eux, et que toi tu grandis avec ce modèle là et bah tu vas reproduire ça, et du coup derrière attirer à toi des relations qui te poussent pas vers le haut ou qui vont peut-être être justement toxiques ou qui vont en tout cas pas t'aider à t'aimer plus.
Quels sont les outils ou les conseils qu'on pourrait donner pour justement être à même de comprendre tout ça avant qu'il soit trop tard, d'être ok de fixer des limites à des personnes, même si des fois ça peut les blesser, tu vois, c'est ça aussi la complexité dans le relationnel, c'est que quand tu commences à te connaître, à t'apprendre et à savoir les valeurs que toi tu portes, si elles sont différentes de celles de ta sœur, de tes parents ou de ton conjoint, comment faire en sorte que les gens aient la révélation de se dire « Ok, je suis ce que je suis, je m'aime comme je suis et je vais le faire comprendre aux gens en fait ?»
Je pense que en fonction d'où on part et de comment on se positionne, il y a plein d'outils différents. Et ce serait difficile de les citer tous parce que c'est vraiment un chemin personnel en fait. Après, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai vu des personnes évoluer autour de la cinquantaine et enfin cheminer et enfin s'affirmer. Et pour ma part, ce qui m'a aidée quand j'étais à l'adolescence et où du coup justement je dépendais vachement du regard des autres, de mes liens avec mes amis, de mes liens avec mes parents, où j'étais en train de chercher mon identité et où j'avais l'impression de me perdre un peu en fait dans cette quête, c'est de lire un livre de développement personnel assez bateau, enfin que tout le monde connaît je pense. Enfin non, peut-être pas tout le monde, mais les quatre accords Toltec, où justement il y a ce conseil de je suis responsable de ce qui émane de moi, donc mes mots, mes gestes, mon comportement, mais je suis pas responsable de ce qui vient à
de
moi.
De l'interprétation des autres.
Bah justement, un des accords, c'est de ne pas faire d'interprétation. Mais c'est aussi ce truc de je fais ma bulle de protection et si on me crache du venin, ça appartient à l'autre. Et moi, ma responsabilité, c'est de ne pas accueillir ce venin, c'est de mettre une barrière de protection et de dire non, j'en veux pas et je me protège, quoi. Je pense que d'arriver à trouver la force en soi pour faire ça, pour dire non, pour poser ses limites, c'est hyper important. Évidemment que pour cheminer sur ce chemin de confiance et d'estime de soi, il faut arriver à se détacher de nos liens parce qu'il y a des personnes qui peuvent réagir de manière brutale en fait à ça et qui vont essayer de garder l'emprise qu'ils ont sur nous. Et nous, on va être obligés bah, des fois de couper les ponts, même si on n'en a pas forcément envie parce que c'est des personnes qu'on aime. Je pense qu'il faut être prêt en fait à dire ok, quoi qu'il arrive, je suis ma priorité et je suis capable de me suffire à moi-même, quoi.
Et pour aller bien, est-ce qu'il faut pas être prêt aussi à se poser les bonnes questions, en fait, à se remettre en question? Tu disais, toi, quand tu cherchais des réponses, justement, tu t'es intéressé à des livres, comme il y a des gens, ils auraient pu s'intéresser, je sais pas, à des films ou à autre chose. Est-ce que tu penses que ça manque aussi les gens qui ne s'intéressent pas assez, en fait, à eux et à leur bien-être et aux solutions qu'ils pourraient peut-être apporter à leur quotidien, plutôt que se plaindre et juste dire... Bah voilà, de toute façon, j'ai jamais eu de chance et ça changera pas. Oui, mais de toute façon, j'ai pas confiance en moi, ça a toujours été. Oui, mais de toute façon, mes parents, ils ont pas été là pour m'aider, donc forcément, c'est pour ça que je suis brisée ou des choses comme ça. Mais il faut peut-être avoir envie aussi d'être meilleur, en fait, de se construire toujours plus et de se dire que c'est un exercice de toute une vie, quoi.
C'est sûr qu'il faut partir de l'envie, en fait. Moi, je sais que ce déclic, il a été présent à un moment où, justement, j'étais vraiment très, 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 très mal. Et je me disais, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, soit je me bute, soit je me motive à devenir, pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, à mettre au devant de la scène des parts de moi qui se donnent les moyens, en fait, de faire en sorte que la vie soit agréable. Et après, ce qui est compliqué, je pense, c'est qu'on s'identifie aussi à ces parts qui ont pris le dessus à un moment dans notre vie, dans notre construction, sûrement pour nous protéger de certaines choses. Toutes les parts de nous ont une raison valable d'exister. Mais de se désidentifier, en fait, de son mal-être et de se rendre compte, justement, que c'est qu'une part de nous et qu'elle n'est pas obligée de gouverner toute notre vie. Ça, c'est une des premières choses à conscientiser. Et ensuite, du coup, de venir nourrir les autres parts qui ont plus d'envie, en fait. Moi, je sais que ça passe par donner la voix, en fait, aux parts de moi qui rêvent grand, qui ont des envies qui peuvent faire peur et qui justement vont venir titiller les parts de moi qui sont là pour me protéger. Surtout reste bien dans ta zone de confort parce que le monde est cruel. Alors si tu sors de ta bulle, tu vas souffrir. Mais en fait, cette bulle, elle me fait souffrir. Donc je perce la bulle, même si c'est douloureux, puisque de toute façon, je souffre. Donc j'ai rien à perdre, en fait. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, le champ des possibles s'ouvre. Et après, un choix en emmène un autre. Et puis c'est en se trompant qu'on apprend. Donc voilà, on y va, on se casse la gueule, on se relève. Et puis la vie continue, quoi.
Sur les différences de mal-être, parce qu'il y a des personnes qui sont mal toute leur vie, d'autres personnes, ça va être juste des passades. Il y en a, ils auront connu que ce grand désarroi pendant la période de l'adolescence. Est-ce que il y a une raison logique, tu penses, au fait que certaines personnes arrivent à se sentir bien et que d'autres n'arrivent vraiment, vraiment pas à voir le bout du tunnel, quoi? Est-ce que les relations jouent là-dedans? Est-ce que ça dépend en fait de notre environnement, du travail que l'on fait et des personnes qu'on fréquente, qui peut amener soit à une guérison, soit à quelque chose qui nous semble illusoire, complet, quoi?
Je pense que oui, parce qu'il y a une image que j'aime beaucoup qui dit que si une fleur qu'on a plantée ne fleurit pas, on ne va pas demander à la fleur de changer. On va changer son environnement. On va lui mettre plus d'eau, plus de lumière, du terreau, etc. Et du coup, bien sûr que notre environnement, c'est notre terreau. C'est ça qui fait qu'on grandit ou pas. Après, là où c'est notre responsabilité, c'est de prendre conscience. Parce que la fleur, elle peut pousser d'elle-même dans un environnement de base qui lui correspond, sauf que nous c'est plus complexe parce que des fois on grandit dans un environnement justement qui nous correspond pas forcément, qui va pas nous permettre de nous épanouir, mais il y a personne qui va nous prendre et nous déplacer, enfin ça peut arriver mais je pense qu'il faut pas forcément compter dessus et du coup bah, c'est à nous de prendre conscience de ah oui en fait ça me convient pas, ah oui là ce travail là il m'épanouit pas, ah oui cette relation là je sens qu'elle me pèse plus qu'elle me fait grandir. Et du coup, encore une fois, de se détacher de tout ça et d'oser en fait sortir de ces choses qui peuvent être parfois des piliers dans notre vie. En tout cas, on en a l'impression, mais qui en fait nous maintiennent dans cette, bref, tu couperas ça.
Et je rebondis sur le mot confort parce que tout à l'heure, on en a parlé, le fait d'être dans une zone de confort et de ne pas pouvoir sortir de ça pour se protéger. Et là, t'en as reparlé. Est-ce que c'est peut-être pas plus compliqué, tu vois, quand t'es mal dans un endroit, mal dans ton travail ou mal dans une relation, est-ce que c'est pas plus facile pour des gens de notre âge de changer de direction que pour quelqu'un qui, mettons, a 55 ans et là, d'un coup, grosse période de dépression? Est-ce que c'est aussi facile de faire le pas, de quitter le relationnel dans lequel tu es peut-être depuis 15 ans? Est-ce que c'est aussi facile de... C'est un devoir qu'on devrait se donner. Se dire, de toute façon, ma priorité, comme tu disais tout à l'heure, ça doit être moi. Et juste moi. Et même si ça me fait peur, c'est OK d'avoir peur. Et j'aurai forcément mieux que la situation que j'ai là. Mais est-ce qu'on a les mêmes capacités et la même niaque de faire les choses à 50-60 balais que quand t'as la vingtaine?
Je pense qu'effectivement, quand on s'est vraiment enraciné dans une situation, c'est plus difficile de se dire « Ok, je vais aller voir ce qui se passe plus loin. » Après, moi, je l'ai pas vécu, donc je sais pas. Je pense que peut-être c'est plus difficile, mais je pense que tout est possible et que il faut pas se dire moi dans ma croyance j'ai, comment dire, avec l'âge on prend aussi de la maturité, on prend aussi justement de la confiance en soi, de l'assise. Peut-être qu'au final une personne qui a 60 balais se dira bon bah de toute façon j'ai déjà vécu une vie donc je peux essayer d'en vivre une autre, alors que peut-être que quelqu'un de la vingtaine est dans ses choix de vie et a une grosse pression de il faut que je fasse les bons choix maintenant parce qu'il me reste toute ma vie à vivre et si j'ai fait les mauvais choix bah, je vais vivre une vie de merde. Du coup je pense que ça dépend des situations, des personnes et j'encourage tout le monde, peu importe l'âge, à avoir le courage d'oser vivre ses rêves et oser se sortir de ce qui peut les mettre dans des situations qu'elles estiment Je mets trop de mots dans ma phrase, ça va pas du tout.
L'estime toxique.
Voilà.
Pour des personnes qui, par exemple, n'ont pas eu la chance de faire le chemin que nous, on a réussi à faire, même s'il nous en reste beaucoup, on est encore loin d'être totalement accomplis et sûrs de nous avec une confiance. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à travailler sur ça. Et moi, je me revois il y a 10 ans en arrière, je n'avais pas du tout la même estime de moi et la même confiance en moi, même si ça reste encore un peu bancal aujourd'hui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à des gens qui n'ont peut-être jamais réussi à travailler sur cette confiance-là parce que justement, ils n'ont jamais eu des clés en main ou des solutions. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est de notre responsabilité aussi d'essayer de sauver son âme, entre guillemets, tu vois. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde, cette chance-là ?
Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde et je pense que la société ne nous amène pas sur ce chemin-là. Et que quand on est bien rangé, telle une tarte dans un moule, on se pose pas forcément la question. Après, c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur, par exemple, de faire cette émission pour que peut-être quelqu'un qui s'est jamais posé la question, dans sa voiture, en changeant de station et en tombant sur notre émission, puisse se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, en fait, je pourrais me poser des questions. »
Se poser des questions et demander de l'aide aussi. C'est quelque chose qui est très compliqué pour tout le monde, notamment souvent parce qu'on a peur du jugement ou parce qu'on se dit que les autres n'auront pas de solution à nos problèmes. Mais tout à l'heure, tu l'as dit clairement, les autres, c'est un peu aussi le miroir de nous-mêmes. J'avais lu une fois que les défauts qui t'auraient pilé le plus chez certaines personnes, c'était ceux qui étaient ancrés en toi en fait et que tu n'acceptais pas de voir dans ta réalité. Et après, c'était vraiment pour revenir sur le fait, pour des gens qui écoutent cette émission, de voilà, c'est le message qu'on veut faire parler, d'en parler déjà, de déculpabiliser, d'apprendre que c'est normal de parler de notre santé mentale et de notre mal-être, du coup, principalement, mais de demander de l'aide, quoi.
Oui, demander de l'aide et juste en fait aussi aller explorer les différentes aides qui sont proposées parce qu'il y a plein de modèles différents qui peuvent convenir à certaines personnes ou pas à d'autres. Moi, je sais que j'ai essayé par exemple la thérapie psychologue, psychiatre et que en fait ça me convient pas parce que mon mental est très, j'ai pas le mot qu'il faut, mais j'ai envie de dire dans la manipulation. En fait, mon mental est capable de manipuler et je sais qu'il est capable d'emmener même un thérapeute là où moi j'ai envie de l'emmener et du coup de pas lui montrer ce qu'il faudrait montrer pour pouvoir travailler dessus. Du coup, moi je vais plutôt passer par des thérapies comme la kinésiologie ou tout ce qui passe par le corps en fait, qui vient switcher le mental parce que comme ça il n'a pas son mot à dire et au moins on vient travailler directement par exemple sur le corps en fait, tous les traumatismes, toutes ces choses là elles sont ancrées dans notre corps physique en fait et on peut très bien les travailler sans parler pendant des heures et après c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fonction des cultures qu'on peut avoir, ce truc de fierté, de « je non, j'ai pas besoin de me faire aider, je... » Mais justement, s'aimer assez pour savoir quand est-ce qu'on a besoin d'aide, ça mérite la fierté aussi, dans le sens il faut du courage et c'est pas facile de demander de l'aide. Donc, si vous sentez que vous en avez besoin et que vous arrivez à demander de l'aide, bah, bravo à vous et vous pouvez vous féliciter pour ça, quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai souvent pu dire à des personnes qui me parlaient du besoin qu'ils avaient d'aller voir un psy ou un thérapeute. Après, comme tu disais, il y a différents outils, mais de ce côté de se sentir faible, en fait, de faire cette démarche-là, parce que faible parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls comme des grands. Et je leur disais tout le temps, mais pour moi, c'est juste une preuve de courage que de réussir à les taper à une porte en disant, voilà, psychologiquement, ça ne va pas du tout et il faut que je trouve des solutions pour aller mieux dans ma vie. Pour moi, c'est tellement loin de la faiblesse.
Ouais, c'est pas, pour moi, ce n'est pas être faible. C'est effectivement accepter de dévoiler sa vulnérabilité à quelqu'un qui a été formé pour ça et qui pose un cadre sécurisant pour ça et qui est neutre et qui, du coup, justement, est censé pas juger et qui, il n'y a pas d'incidence directe, en fait, sur vos relations, et, etc. Et ouais, ce courage de montrer sa vulnérabilité, c'est, moi, personnellement, je pense que faire l'expérience de la vie humaine, c'est d'une complexité incroyable, sans fin. Et on devrait tous avoir un psy attitré à la naissance, en fait, quoi. Parce que,
clairement.
Franchement, c'est un bordel pas possible. Enfin, moi, il n'y a pas une journée où mon cerveau il n'est pas en train de faire les montagnes russes face à la complexité de la vie, quoi. C'est... Donc, franchement, exprimez-vous, quoi.
La nécessité d'une personne neutre pour évoquer nos ressentis, est-ce que ça te semble légitime, en fait? Est-ce que, du coup, le dialogue serait peut-être plus objectif que d'en parler à ta meilleure amie qui sait déjà tout de toi, de ta vie
Je pense que ça dépend des situations et des personnes. Il y a des personnes qui, peut-être, ont besoin de parler à quelqu'un qu'ils connaissent pour être en confiance. Mais là où je trouve ça intéressant, en fait, la neutralité, c'est que la personne est objective, en fait, sur et va pas comment dire, réagir, en fait, à ce qu'on peut exprimer ou à ce qu'on peut montrer des fois comme émotion, quoi.
Ou prendre parti.
Voilà, ouais. Et au-delà de la neutralité, je pense que d'aller voir des personnes qui sont formées et qui ont des outils justement à nous transmettre, c'est vachement enrichissant, en fait, pour justement... c'est pas, en fait, je remets entre tes mains ma guérison, c'est je prends ma responsabilité, je vais chercher des outils pour être maître de ma guérison. Et c'est là où ça fait toute la différence, en fait.
Quand on a commencé cette émission, on voulait évoquer un peu l'impact des relations qu'on peut avoir avec les autres sur notre santé mentale. Au final, quand on y réfléchit un petit peu, on a besoin, en fait, de liens sociaux pour être bien. On a besoin d'échanger. Enfin, comme tu dis, c'est super enrichissant, en fait, de pouvoir discuter avec des personnes qui ont des outils ou un chemin différent du tien. Ça peut nous emmener, en fait, à évoluer de nous-mêmes. Et pourtant, parfois, on ressent vraiment les choses comme si, comme si l'enfer, c'était les autres, en fait. Comment on peut expliquer ce... Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons déformé les choses en compliquant notre manière de vivre ensemble plutôt que de se soutenir, d'être dans une solidarité, de s'apporter des outils? Qu'est-ce qui complique vraiment les relations entre les gens aujourd'hui pour que ce soit aussi compliqué d'échanger, de discuter, d'être soi-même, en fait?
J'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ce qui est problématique, c'est qu'on ne sait déjà pas relationner avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas la plupart du temps. On ne nous a pas appris à nous écouter. Et du coup, on ne sait pas écouter les autres. Forcément. Et à partir de là, c'est un peu bloqué, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai emprunté le chemin de... D'abord, j'apprends à me connaître, à discerner les différentes parts de moi, à observer mes comportements, à accueillir mes émotions, à observer ce qui se passe dans mon corps, dans telle situation. Enfin, Et à partir de là, je suis, comment dire, assez ancrée, assez en moi, assez apte à communiquer avec moi-même pour aller vers l'autre, en fait. Tout est question aussi de point de vue, en fait. C'est depuis quelle vision, depuis quel filtre, depuis quelle lunette je regarde ce qui se passe. C'est, est-ce que quand un tel réagit comme ça et que moi, franchement, ça me saoule, je vais dire ouais, bah, de toute façon, c'est un con, tant pis. Ou est-ce que je vais regarder pourquoi moi ça me fait réagir, pourquoi lui il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là pour réagir comme ça. Et à partir de là, ça devient vachement intéressant parce qu'on rentre vraiment en lien, quoi. À l'inverse, dans le sens où, justement, en échangeant avec les gens, en rencontrant des personnes, on peut avoir un sentiment d'admiration face à quelqu'un où, justement, on a l'impression qu'il se connaît vachement bien, qu'il a vachement d'outils pour bien gérer sa vie, qu'il a l'air épanoui, souriant, joyeux, heureux, léger. Et on se dit, ouais, j'aimerais trop être comme cette personne. Et il y a ce sentiment... envieux, en fait, qui vient se mettre en place. Et du coup, l'effet miroir, il marche aussi pour ça. Ce qu'on envie chez les autres, c'est aussi des choses qu'on a en nous et qu'on voit des fois pas, en fait. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, ça peut être une motivation, en fait. Au lieu de dire, ouais, bah, de toute façon, lui, il est mieux que moi, moi, je suis une merde. C'est dire, ah ouais, cette personne, elle est trop cool. Peut-être je peux rentrer en relation avec elle, voir comment elle a fait pour en arriver là. Et du coup, que ça m'inspire pour, moi, mon chemin, devenir une meilleure version de moi-même sans essayer d'atteindre sa version à lui, parce que l'autre, c'est l'autre et moi, je suis moi. Mais en tout cas, voilà, que ce soit quelque chose qui amène de la motivation plutôt que de la démotivation. Et encore une fois, ça, c'est comment je vois les choses, en fait. Quel chemin mon cerveau y prend pour analyser une situation, quoi. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est à un moment d'arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres et de se concentrer sur soi et de se dire ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre peut-être, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mon idéal. Encore une fois, je pense que ce qui est chouette, c'est d'avoir des personnes de confiance à qui on peut parler. Je sais pas, je pense aux grands frères, aux grandes sœurs, aux tatas, aux tontons, de famille ou de cœur, hein. Peut-être des personnes ouais, qui ont un peu plus de recul justement sur la vie, qui sont déjà passées par ces étapes-là et qui peuvent nous conseiller ou en tout cas nous écouter avec compréhension et bienveillance. Et puis se focus aussi sur ce qui nous apporte de la satisfaction, faire attention à nos petites victoires personnelles, en fait. Justement, si par exemple on voit qu'on aime trop le dessin et qu'on ne sait pas trop dessiner, bah, ça peut être regarder un tuto sur internet et puis faire un dessin et puis se dire ah ouais, en fait je me débrouille pas trop mal. Voilà, se dire qu'en fait on est à l'orée de la vie et que tout est possible et qu'il y a des gens certes qui ont déjà des facilités dans certains domaines, mais que tout peut s'apprendre et du coup si vraiment tu le veux, bah, lâche pas l'affaire, quoi.